Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toi, chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi, c'est Charline, la créatrice de ce podcast, dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance, sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser les questions que l'on se pose souvent en tant que parent, et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines, et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. Cette semaine, je souhaite la bienvenue à Kelly dans la communauté Patreon du podcast. Merci à elle de soutenir financièrement le podcast. Si comme elle, tu as envie de faire partie de cette communauté et d'accéder à du contenu exclusif, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/parentsinformés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 38e épisode, j'ai l'honneur de recevoir Audrey Enjav, la fondatrice et directrice du centre périnatal Happy Mum & Baby. Avec un diplôme d'infirmière obtenu en France et un diplôme de clinicienne obtenu au Canada, mais surtout 20 ans d'expérience auprès des enfants et des familles, Audrey est une référence dans son métier et dans le partage de ses connaissances sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, on parle avec elle des mots des nourrissons. En effet, les premiers jours, premières semaines, premiers mois sont un bouleversement pour les parents, mais sont parfois également difficiles pour les bébés. Coliques, diarrhées, constipation, régurgitation, reflux, les mots peuvent être nombreux et on se sent parfois incompétent face aux pleurs de nos bébés. Audrey nous aide à y voir plus clair, à trouver des pistes et à savoir vers qui s'orienter. On aborde également le lien entre alimentation et sommeil, car ils sont intrinsèquement liés. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis absolument ravie de t'avoir avec moi dans ce podcast.
Merci à toi.
Avec toi, on va parler de tous les petits mots et les grands mots des bébés, des petits nourrissons quand ils arrivent au monde. Mais avant, est-ce que tu peux juste nous rappeler qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours, s'il te plaît?
Donc moi je suis Audrey, je suis fondatrice du centre périnatal Happy Mum & Baby et d'une clinique périnatale aussi au Canada. Et je suis en fait infirmière diplômée d'État en France, expatriée depuis 6 ans au Canada, où je suis allée chercher finalement mon titre de spécialiste en périnatalité. Donc, je ne suis pas infirmière puéricultrice parce que je ne suis pas allée chercher la spécialité en France, mais à l'étranger. Donc, du coup, c'est pour différencier un petit peu, c'est qu'une puéricultrice, une infirmière diplômée d'État qui a eu sa spécialité en France, donc qui s'appelle puéricultrice, puis c'est propre à la France. Après, il y a le reste du monde où il est possible d'être une infirmière spécialisée en maternité, en pédiatrie, enfin dans les domaines qui touchent à l'enfance, mais on s'appelle différemment. Voilà, sinon après, ça fait 19 ans que je travaille auprès des familles avec différents statuts. J'ai été animatrice pour des camps, enfin, avec des enfants porteurs de handicap. Mes toutes premières expériences, c'était ça. Après, j'ai rapidement été diplômée de mon diplôme d'état d'infirmière. Et puis, avec un public pédiatrique, maternité, pédopsychiatrie, néonatologie. Enfin, j'ai vraiment touché à tous les domaines, autant dans le social aussi, parce que j'ai été dans des centres pour mamans mineures enceintes, dans des foyers de l'enfance, en fait, en France, dans des centres maternels et infantiles dans d'autres pays, comme le Gabon, par exemple, ou l'Angleterre. Et après, ici, au Canada, où finalement, j'ai été dans un pôle pédiatrique, dans un pôle mère-enfant, où, en fait, là-dedans, j'ai touché à l'obstétrique aussi, parce qu'au Canada, les infirmières, il n'y a pas de sage-femme à l'hôpital.
D'accord.
Donc, en fait, c'est nous qui sommes là pour les accouchements. Donc, j'ai eu cette formation en obstétrique, en réanimation néonatale aussi, en soins développementaux. Enfin, voilà, ça fait 19 ans que je mange bébé, je dors bébé, je vis bébé. Voilà. Je suis maman de 3 enfants aussi, dont le premier va avoir 13 ans. Donc, ça fait longtemps que j'ai mis les pieds dans la parentalité, dans la maternité. Mais je précise toujours que ce n'est pas mon expérience de mère qui m'amène aujourd'hui à travailler auprès des familles.
Est-ce que tu peux nous dire 2 mots du centre Happy Mom and Baby ?
Je suis partie d'un constat très très simple, hein, de terrain, tout simplement. Pas de mon expérience de maman, mais vraiment d'une expérience de terrain où, en fait, il y a à peu près 8-10 ans, je me suis aperçue que beaucoup de familles, avec l'arrivée d'Internet, etc., allaient beaucoup, beaucoup chercher des informations sur la sphère digitale. Donc, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux à proprement parler, mais beaucoup de sites Internet, de blogs, de pages, de groupes Facebook à l'époque. Et en fait, on s'est retrouvés en milieu hospitalier à avoir des familles qui nous disaient « Ah, mais j'ai lu ça sur Internet, mais une maman m'a répondu ça sur un groupe. » Et donc, on s'est retrouvés un peu en clivage un petit peu avec ce qui pouvait être diffusé sur la sphère digitale et ce que notre pratique, en fait. Je me suis dit, en fait, il n'y a personne finalement qui est compétent, qui est formé, dont c'est le métier, qui leur apporte des réponses. Donc, j'ai commencé comme ça un petit peu à aller répondre à ce besoin-là sur les réseaux, enfin, sur la sphère digitale, parce que c'est aussi ma génération. Et à partir de là, je me suis aperçue effectivement qu'il y avait énormément de besoins ailleurs qu'à l'hôpital. Et en parallèle avec ce manque de considération de la famille, en fait, j'avais vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête durant au moins ces 10-15 ans. Et il y a 4 ans, je me suis dit, écoute, le soin privé existe, parce que du coup, je l'ai découvert, les pratiques privées existent, je l'ai découvert au Canada, où c'est très courant que les services privés viennent pas concurrencer les services publics, mais bien apporter un soutien aux services publics qui forcément s'essouffle à un moment, parce que il y a une réalité financière qu'il ne faut pas oublier, même si les gens ont l'impression que se soigner c'est gratuit en France, non, ça l'est pas, ça coûte des sous à l'État, ça coûte des sous à l'usager, ça coûte de l'argent, même si ça sort pas directement du portefeuille du patient. J'ai trouvé quelque chose de totalement normalisé et qui est dans les mœurs, en fait, dans une autre culture, donc la culture américaine. Et donc, j'ai fait un petit peu un mix des deux en me disant, j'ai cette culture française parce que je suis formée là-bas et puis j'ai grandi là-bas, mais en même temps, j'aime aussi d'assumer le fait, en fait, que les services privés en santé existent. Et je me suis donné le droit de le faire. Donc, j'ai créé un centre périnatal. Au départ, j'étais toute seule. Un centre périnatal pour vraiment faire de la consultation infirmière qui fait partie de notre travail, mais qui n'est pas reconnue par les autorités françaises. Donc, j'ai dit, je vais faire de la consultation infirmière à distance. Comme ça, je vais couvrir. En fait, j'oublie pas d'où je viens. En gros, je pourrais aider les familles qui me connaissent déjà en Europe. Et puis, finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un gros centre parce que j'ai décidé de communiquer sur les réseaux sociaux le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, pour moi, ça fait partie de mon rôle d'informer et d'information et de promotion et de prévention de la santé. Et ça fait partie intégrante de notre rôle en tant que professionnel de santé, exactement comme créer des affiches à mettre dans les cabinets médicaux, créer des affiches à mettre dans les hôpitaux. Ben, d'habitude, on est plein de têtes qui pensons à comment on va communiquer. Là, j'ai pris mon envol à moi toute seule. Et j'ai décidé de communiquer, d'informer, de prévenir et de promouvoir surtout la santé périnatale à travers les réseaux sociaux et d'être présente, parce que communiquer, c'est bien, mais d'être présente aussi derrière avec une évaluation et une prise en charge de la santé. Parce que ça fait partie aussi de nos compétences. On nous rappelle en école d'infirmière, on est là pour maintenir, promouvoir, informer, prévenir et maintenir la santé. Donc, pour maintenir la santé, il faut l'évaluer. Et donc, derrière, il y a ce côté d'évaluation de la santé de l'enfant, de la mère, de la famille. Moi, j'interviens dans ce cadre-là où je vais, précisément, si j'ai un bébé qui ne dort pas, et effectivement, je vais aller évaluer la cause en fait de ces difficultés au sommeil. Si j'ai un bébé qui ne mange pas, moi je suis là dans l'évaluation d'une difficulté pour y trouver des solutions. Mais j'ai vraiment commencé comme ça et la création de ce centre, je l'ai voulu virtuel parce que en périnatalité, on n'est pas dans le médical, on n'est pas dans le curatif. Donc, on n'a pas forcément besoin d'évaluation physique à proprement parler. Et si c'est le cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai des personnes relais en France qui, du coup, vont pouvoir évaluer physiquement si moi, je dépiste. Et voilà, et 4 ans après, on est 13 professionnels de santé, plus une équipe au total de 20, à peu près plus de 20 personnes, avec tout ce qui est communication, administratif. C'est un vrai cabinet, en fait, un centre de santé, mais qui est exclusivement en ligne pour tout le monde entier. Service à domicile aussi pour certaines prises en charge, notamment l'allaitement, où les professionnels se déplacent à domicile. Et après, au Canada, j'ai ouvert une clinique physique, donc qui est le même principe, le centre, mais c'est physique, où là, je vais plus être sur le suivi de santé avec le poids, la taille, tous les suivis de croissance des bébés, l'évaluation physique d'une mère, sa santé mentale, les prélèvements, tout ce qui incombe à mon rôle d'infirmière en physique. Donc voilà, donc un petit peu l'histoire du centre, c'est ça.
C'est très complet.
Pour moi, ce qui est important aussi, c'est que même si c'est du soin privé, on ne soit pas dans la sélection de patients parce que les consultations sont toutes standardisées à 80 € la semaine en fait, de consultation. Lors d'une consultation, on a derrière une semaine d'évaluation, de suivi et tout est payable en plusieurs fois.
Ok. Du coup, on va attaquer sur les maux des bébés. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les difficultés les plus courantes qu'on retrouve chez les bébés, chez les nourrissons ? Là, on parle vraiment des tout-petits.
Nourrisson, ça va être beaucoup ce qu'on appelle les coliques, les pleurs. Les pleurs ne sont pas des maux, mais c'est surtout les problèmes de digestion. Moi, je trouve que c'est souvent ça qu'on vient nous rapporter, les petits reflux, les régurgitations, le bébé qui va avoir beaucoup de gaz, beaucoup la digestion, souvent. Qu'on vient nous dire, souvent la digestion, puis surtout ce sentiment en fait un petit peu d'incompétence face aux pleurs du nouveau-né où on ne sait pas quoi faire. Donc je te dirais que c'est des maux des bébés, mais des maux des parents aussi. Du coup, vraiment ce côté, c'est un peu plus des maux de parents qu'on va avoir je ne sais pas quoi faire, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il veut. Et ça va vraiment plutôt être l'éducation à la santé sur les premières semaines. Mais ce qu'on vient nous rapporter souvent, c'est des difficultés alimentaires, en fait, beaucoup. Allaitement, au biberon, peu importe, mais souvent des difficultés alimentaires.
Ça vient de quoi ?
Alors, ça dépend. Il y a vraiment plusieurs... Il y a plusieurs cliniques, déjà. Il y a plusieurs symptômes associés qui vont faire penser à certaines choses. Mais puis, il y a deux cas de figure aussi. Les bébés qui vont être allaités, les bébés qui vont boire une préparation commerciale pour nourrissons. Si on parle de régurgitation, si on parle de reflux ou de régurgitation, c'est-à-dire ce lait qui ressort un petit peu de la bouche du bébé, on peut parler d'immaturité du système digestif, surtout du cardia, qui va avoir du mal à se fermer. J'ai pas envie de parler d'immaturité du système digestif parce que c'est un gros fourre-tout, en fait. C'est un gros fourre-tout où on y met « Ah non, mais c'est normal, son système digestif est immature. » Sauf qu'il y a quand même des moments où c'est pas du tout en lien. L'immaturité, elle va faire que bébé va manger des quantités assez irrégulières, va avoir un rythme un peu irrégulier de faim, parce que tout se met en place au niveau digestif, va avoir un rythme d'élimination aussi qui va être variable. L'immaturité, elle peut un petit peu amener ça, mais l'immaturité, elle ne va pas être responsable de difficultés. D'accord ? Un bébé qui fait un reflux gastro-œsophagien, ce n'est pas un bébé qui a un système digestif immature. Un bébé qui va être très constipé, ce n'est pas un système digestif immature. Un bébé qui a de la diarrhée, ce n'est pas un système digestif immature. Un bébé qui a des coliques, en France, on appelle encore ça colique, mais il faut savoir qu'ici, on n'appelle plus ça colique. Un bébé qui va avoir des gaz, là, peut-être qu'on est sur un système digestif immature, quand bien même, il faudrait que ce soit vraiment pas quelque chose qui le dérange. Un bébé qui fait des pets, mais sans pleurs associées, on est OK. Tout ce qui ne va pas créer l'inconfort, on va dire, chez l'enfant, le roux, le P, voilà, peut être associé à une immaturité digestive, mais pas le reste. Tout ce qui est associé à un inconfort, tout ce qui va entraîner des pleurs insistants, tout ce qui va vraiment entraîner une douleur parfois chez l'enfant, c'est pas l'immaturité du système.
Ok, et du coup, c'est quoi si c'est pas ça?
Alors, si on parle de préparation commerciale pour nourrissons, ça peut être quelque chose qui n'est pas assimilé, qui n'est pas digéré. Je dis assimilé parce qu'en fait, concrètement, quand on va donner à boire à un bébé une préparation commerciale pour nourrisson, on va avoir des formules qui se rapprochent au maximum, on va dire, de la composition du lait maternel, mais qui ne le sont pas quand même. Et parfois, on va avoir des composants à l'intérieur qui vont être difficilement assimilables. Par exemple, si on parle des protéines de lait animal, donc de vache, de chèvre ou surtout de vache, on a des protéines qui sont assez grosses. Et là, on va avoir besoin d'enzymes, on va avoir besoin de choses dans le système digestif qui vont venir découper ces protéines-là pour les découper et après les assimiler, les distribuer dans l'organisme. Maintenant, les protéines de lait de vache, souvent aujourd'hui, hein, on est d'accord qu'on n'est plus à l'époque où les vaches broutaient de l'herbe et tout allait bien. Il y a plein de déjà dans l'alimentation de l'animal des choses qui ont changé. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes choses qu'il y a des années en arrière. Et en fait, par manque peut-être d'enzymes nécessaires, qu'elles ne reconnaissent peut-être pas la protéine ou qu'elle est trop grosse à découper, le système va le rejeter. Là, vu qu'elles auront commencé un petit peu, elles auront essayé de digérer cette protéine, elles ont essayé de découper cette protéine, donc elles auront envoyé des sucs gastriques, elles auront envoyé des choses qui vont désintégrer un petit peu cette protéine, puis ça ne marche toujours pas. Donc quand ça va remonter, c'est tout qui va remonter. Donc les sucs gastriques, par exemple, ce sont des choses qui sont assez acides, donc qui peuvent irriter l'œsophage et donc qui peuvent créer de la douleur chez l'enfant. D'accord. Donc forcément, on va avoir un bébé qui va régurgiter avec douleur. Et là, on peut mettre fourre-tout, non, c'est normal, son système est immature. Non, c'est normal, un bébé, ça pleure. Non, un bébé, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à comprendre petit à petit que boire égale avoir mal. Donc petit à petit, il va refuser. Il va ne plus vouloir manger. Et donc là, c'est-à-dire quand l'enfant n'est pas confortable quand on lui donne à boire, c'est-à-dire qu'il va se jeter en arrière, faire beaucoup de roux. Enfin, on sent que c'est bizarre. Normalement, tu donnes ton biberon, tout va bien. Ça ne crée pas d'inconfort. Quand il y a de l'inconfort, on se pose des questions. On n'attend pas d'arriver à vraiment des pleurs incessants et une douleur finalement, parce que des fois, ça va même irriter l'œsophage. Donc, on est avec des œsophagites. On a vraiment un système, la digestion, l'œsophage qui est irrité, qui est inflammé et là, on ne peut plus rien manger. On se retrouve avec des pleurs aux urgences, etc. Donc, on essaye d'allumer avant. Dans la majeure partie des cas, ça doit bien se passer, l'alimentation. Si mon bébé n'est pas confortable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être une des raisons, donc le reflux gastro-œsophagien. Pareil, il peut y avoir un bébé qui ne fait suite à, avec son biberon, ne fait pas de sel ou à la diarrhée de façon très régulière. Pareil, il faut toujours se poser des questions, mais qu'est-ce qui rentre dans son ventre, en fait, qui pourrait ne pas lui correspondre, en fait. C'est-à-dire qu'on a tellement de formules aujourd'hui de lait que on peut ne pas avoir la formule qui corresponde à notre bébé. Donc ça, c'est des choses qui, ça se traduit par ça. Avec les préparations commerciales pour nourrissons, donc les laits infantiles qu'on appelle. Et pour l'allaitement maternel, on peut toujours avoir cette histoire de protéines de lait de vache parce que c'est quelque chose que l'enfant va boire au travers le lait de sa maman. Donc, si maman boit beaucoup de lait, mange beaucoup de fromage, tout ce qui boit beaucoup, ingurgite beaucoup de protéines animales, Voilà, ça peut, même protéines bovines parfois, ça passe le lait, puis ça se peut que bébé aussi il ait du mal à les assimiler. Donc pareil, même clinique, un bébé qui est inconfortable, qui commence à refuser le sein, qui se cambre en arrière, qui régurgite avec de la douleur, qui n'est pas confortable, pas forcément qui régurgite avec, qui, on voit du lait qui sort, mais vraiment tout un comportement qui, non, il y a un truc, ce qui n'est pas normal, d'accord ? Donc ça, ça peut être une des choses. Il faut savoir que l'allaitement maternel, c'est un système parfait qui, la bouche du bébé doit parfaitement s'emboîter sur le sein de la maman avec un placement de la lèvre supérieure pile poil sur le quatrième nerf intercostal, la bouche en bas qui roule. Enfin, on a vraiment, voilà, tout, normalement, tout doit s'emboîter correctement. Il suffit qu'il y ait une anomalie dans la bouche de l'enfant pour que ça foire, en tout cas qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Donc, par exemple, si j'ai une lèvre qui ne se place pas correctement parce que j'ai peut-être un filament, ce qui retient la lèvre, donc on appelle ça un frein qui est restrictif et qui fait qu'il a besoin, en fait, finalement, d'être stimulé pour se détendre un petit peu, eh bien, ça se peut que mon allaitement ne se passe pas correctement. Donc, en fait, si j'ai un allaitement qui ne se passe pas correctement, c'est toujours l'alimentation, l'allaitement. Donc, ça se peut que mon bébé ne soit pas confortable. S'il n'est pas positionné correctement, ça se peut qu'il y ait de la pression dans sa succion qui crée des blessures à maman. Ça se peut que lui prenne de l'air quand il boit le sein. Donc, qui dit prendre de l'air, bah, dit beaucoup d'air dans l'estomac, dit bah, il va falloir le sortir cet air-là. Puis quand l'air il sort, bah, il va remonter, pareil avec les sucs gastriques, la digestion qui a commencé. Il suffit que maman ne soit pas bien positionnée, que la bouche du bébé, il y ait quelque chose qui vienne le déranger dans la prise du sein pour que, des fois c'est des toutes petites fentes labiales, des fois c'est, il y a toute une évaluation, elle a la bouche de l'enfant, de la position. La première des choses qu'on fait, c'est ça, on évalue la succion de l'enfant avec sa position, etc. Parce que oui, ça peut entraîner derrière des difficultés au niveau de la digestion. Un bébé, par exemple, qui n'arrive pas à téter correctement mais qui a besoin de manger, bah, il va téter quelques minutes, il va apaiser sa faim, mais par contre, il n'aura pas mangé pour autant. Donc, il va aller stimuler le sein beaucoup plus souvent. Un bébé qui va téter 2-3 minutes toutes les heures, il y a un truc qui ne colle pas en dehors des pics de croissance, bien sûr. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui doivent alerter et qui peuvent entraîner derrière l'enfant qui va surstimuler le sein parce qu'il ne le prend pas correctement, va entraîner une hyperlactation, qui va entraîner un réflexe d'éjection qui est fort et qui va entraîner une prise d'air et qui va entraîner donc un inconfort et donc des problèmes digestifs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout mettre dans l'immaturité parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent expliquer l'inconfort d'un bébé dans ses premières semaines de vie.
Ok. J'ai quelques questions par rapport à ce que tu viens de dire sur les préparations commerciales pour les nourrissons. Est-ce que, même si elles sont au lait de vache, elles ont des compositions différentes ? Est-ce que si on change de marque, potentiellement, ça peut être une première piste pour essayer d'évaluer si c'est ça ou pas ? Ou est-ce que, de base, s'il y a un problème d'alimentation avec le lait de vache, il vaut mieux tenter une préparation plutôt en céréales ?
Alors, on y va toujours par élimination. On y va en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà voilà, de changer de lait, effectivement, de marque de lait, parce qu'elle change. Il y a ce qui est peut-être un pourcentage de caséine plus ou moins élevé, qu'il y ait une molécule qu'il n'y a pas dans l'autre qui va aider bébé. Souvent, le premier réflexe, c'est d'aller donner un lait épaissi. Ça peut être une solution si c'est uniquement des régurgitations qui ne sont pas en lien avec une cause. D'accord ? Si c'est juste des régurgitations liées justement à une maturité du cardia, ça peut aider à faire en sorte que… Mais sincèrement, c'est vraiment pile ou face, quoi. Parce que si je passe à un lait épaissi, ce n'est pas la seule chose que je dois faire. Parce que si ça continue, ce n'est pas ça le problème. Donc, on se laisse vraiment. Nous, on y va vraiment par étapes. On y va première, on va essayer un lait épaissi, on va éliminer les maturités du cardia. Ça ne passe pas. Et bien là, on va passer à un lait peut-être avec des protéines déjà découpées, donc des protéines hydrophilisées qui vont être déjà découpées. Alors, je sais qu'en France, on dit hydrolysées, nous, on dit hydrophilisées, qui sont déjà découpées, en fait, donc qui sont prédigérées, si je peux dire, pour que l'enfant arrive mieux à les digérer. Ça, c'est là le troisième essai qu'on fait. Et voilà. Et puis, si c'est toujours pareil, et bien là, on va aller sur un lait effectivement végétal qui va avoir des protéines non animales, mais des protéines végétales, donc des protéines de riz. Qu'elle soit animale ou qu'elle soit végétale, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on ait des protéines. Souvent, on a peur, oui, les carences, la composition, elle va être la même. C'est juste la source de la protéine qui va changer. Donc après, c'est, la composition sera la même. En fait, on aura du fer, on aura du calcium, on aura tout ce qu'il y a dans les autres laits, mais on aura juste changé l'origine de la protéine. On y va vraiment voilà, par élimination. Mais au bout de le quatrième essai, si on est toujours à quelque chose de difficile, des fois, on a besoin d'aide d'un inhibiteur de la pompe à protons, enfin voilà, de traitement. Des fois, on a besoin d'un petit peu plus.
OK. Quand on parle de test, on teste sur combien de temps ? Combien de temps l'organisme y met à savoir si ça lui va ou pas?
4 à 7 jours. Voilà. Au bout de 4 jours, on n'est pas une journée, quoi.
Il faut que le test dure suffisamment longtemps pour qu'on voit s'il y a des effets ou pas.
Exactement.
Ok, ça marche. Et pour quand on parle de problème d'allaitement, je trouve ça personnellement plus difficile d'essayer de changer les choses quand on n'a pas du tout de connaissances en allaitement, parce qu'on est là avec notre bébé et on voit bien que ça ne marche pas, mais concrètement, c'est quand même hyper compliqué. À qui on s'adresse ?
C'est difficile parce que je vais dire en premier lieu à des consultantes en lactation qui sont certifiées IBCLC. Je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, on est en 2021. Bon, tant mieux, la certification continue d'exister, mais l'accès à la certification a changé. Et aujourd'hui, on se retrouve des fois avec des gens qui cumulent les heures, on va dire, nécessaires à l'accès, sans aucune expérience, parce qu'elles cumulent les heures à droite, à gauche, dans des associations, enfin, beaucoup de filles gruges, juste pour obtenir cette certification, qui pour moi, aujourd'hui, j'ai vu travailler certaines IBCLC, et du coup, voilà, ça m'a beaucoup dérangée. J'ai vu aussi beaucoup de très, très bonnes consultantes en lactation qui ont été certifiées pendant des années, perdre leur certification parce que c'est un QCM, hein, l'accès à la certification. Donc, on a 90 heures de formation qu'on peut aujourd'hui faire dans l'organisme que l'on veut. Et à la suite de ça, c'est un QCM, 275 questions. Donc, tout ce qu'implique un QCM. Moi, j'ai beaucoup remis en question cette certification-là. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que, par exemple, je vais regarder pour diriger mes patientes en physique, parce que nous, on les évalue à distance. Maintenant, je vais regarder la personne, sa formation de terrain avec une mise à jour des connaissances. Une personne qui me dit, oh, ça fait 20 ans que je fais de l'allaitement, ok, c'est quand ta dernière formation ou mise à jour de formation? Oh, ben non. Tu vois, il y a plusieurs choses à regarder. Sincèrement, moi, si je peux donner un conseil aux gens quand ils font appel à des personnes pour se faire aider dans l'allaitement maternel, regardez la manière dont elle évalue votre allaitement, en fait. Je veux dire, une personne qui va juste regarder votre bébé au sein, mais qui ne va pas mettre le doigt dans sa bouche, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui va juste repositionner la tête du bébé, non. On va vraiment regarder les lèvres, la bouche, le palais, la forme du sein de maman. Il faut observer la mise au sein, il faut observer la durée de la tétée, Il y a plusieurs critères qu'on va vraiment regarder pour évaluer un allaitement maternel et apporter des solutions. Une personne qui ne vous pose pas de questions sur l'histoire de votre allaitement, sur comment ça s'est passé à la maternité, comment tu t'es positionné, enfin, comment toi, tu as quelle posture face à l'allaitement, enfin, voilà, ça doit vous dire, non, peut-être que, oui, je vais avoir du soutien, je vais être écoutée, je vais avoir du soutien, mais c'est pas l'évaluation qui va avec. Donc, c'est ça qui est important à distinguer et c'est ça qu'on apprend normalement quand on est IBCLC à évaluer.
Ok. Comment on fait pour reconnaître chez notre bébé les différents maux entre les coliques, les problèmes de constipation, si c'est un reflux mais qui ne ressort pas forcément? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce qu'il a notre bébé? Parce que concrètement, quand on n'est pas du tout professionnel, on voit un bébé qui pleure, et qui se tortille et c'est à peu près tout, quoi.
Bah, juste ça, en fait. Comme je disais tout à l'heure, juste le comportement de votre enfant. Un bébé qui se tortille, un bébé qui pleure de façon incessante, un bébé qui est confortable qu'à la position verticale, un bébé qui ressent un petit peu d'inconfort quand tu touches son ventre, un bébé qui refuse de manger. En fait, il faut vous dire que tout ce qui sort d'un comportement normal avec un bébé qui boit, un bébé qui dort, un bébé qui est joyeux, un bébé qui pleure très peu, mais qui pleure que pour exprimer ses besoins, doit alerter le parent, en fait, sur il y a quelque chose. Donc après, souvent, moi, ce que je demande, alors... faut souvent faire appel à un professionnel, mais souvent ce que je vais demander aux familles, c'est vraiment de tenir un petit carnet et de noter en fait le comportement des parents, de l'enfant, pardon. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Quand est-ce qu'il pleure? Qu'est-ce qu'il mange? Pour qu'on puisse faire des liens ensemble en fait et qu'on se dise, ah oui, attends, t'as vu, regarde, dans ce que t'as noté, ben, ton bébé il pleure très souvent proche des repas. Ben, peut-être que, tu vois, on va vraiment y aller par un travail de détective en fait.
Ok, quand on sent qu'il y a un petit souci, c'est intéressant de se mettre en place un cahier de bord avant d'aller consulter. Ça peut permettre de faciliter la première consultation, j'imagine.
Exactement. Tu vois, par exemple, moi, dans toutes les consultations, personne ne peut prendre de consultation du jour pour le lendemain parce qu'il y a toujours 4 jours d'observation sur le bébé. Que ce soit pour le sommeil, pour l'allaitement, j'ai toujours besoin, voilà, elles reçoivent des documents qui sont envoyés, des questionnaires, etc. Et on a 4 jours, en fait, en amont, pour se dire, ok, comme ça, quand on a la consultation, bah, on sait déjà où on va.
Ok, donc la première phase, c'est l'observation.
Exactement.
On entend souvent parler des pleurs de décharge. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment on différencie ces pleurs-là des pleurs de difficultés autres?
Alors, de manière très difficile, parce que du coup, justement, c'était difficile. Les peurs de décharge. Alors, il faut savoir que tout est source de stimulation pour votre bébé quand il naît. La lumière, le bruit, les couleurs, les mouvements, tout est source de stimulation. C'est-à-dire que tout est source de découverte et donc de stimulation. Comme quand vous passez une journée vous passez une journée à Disneyland à faire toutes les attractions, etc., etc., ben, le soir, vous allez être un petit peu tendu. Hein, vous allez être un peu tendu, un peu sur les nerfs, et puis vous allez décharger à votre manière, à vous aussi en tant qu'adulte, soit en vous fâchant, soit en vous énervant, soit du coup en pleurant des fois, soit en allant dormir, enfin voilà. Ben, l'enfant, c'est un petit peu pareil, sauf que ben, lui, ce qu'il vit, il n'a pas besoin d'aller à Disneyland pour le vivre. C'est vraiment tous les jours, c'est Disneyland pour lui. Donc, en fait, selon la journée que vous allez passer, plus elle est calme, mieux c'est. Et si vous passez une journée au centre commercial, que vous avez Pierre, Paul, Jacques, et ben du coup, forcément, attendez-vous à ce que votre enfant, le soir, ils sont un petit peu très stimulés, très énervés, et que la seule manière qu'il ait d'exprimer un petit peu tout ce qu'il a vécu dans la journée, c'est de pleurer, parce que c'est la seule chose qu'il sait faire, en tout cas, pour s'exprimer. Donc, comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est souvent des pleurs de fin de journée où on a vraiment l'enfant qui va... Le son, en fait, du pleur, il est assez sourd, en fait. C'est vraiment... C'est des pleurs qui s'arrêtent difficilement. Rien ne le calme, en fait. Rien ne le calme. Mais sincèrement, je ne peux pas dire comment on les reconnaît. Si vraiment ça vous inquiète et que ça dure régulièrement, très longtemps, et que vous avez le doute sur si c'est des pleurs de charge ou pas, essayez de faire évaluer ces pleurs, en fait. Discutez avec un professionnel qui va vous poser des questions et puis qui va savoir, parce que ça peut aussi, pareil, c'est un sac fourre-tout aussi, où on va dire « Ah non, c'est des pleurs de décharge ». Et des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Donc, tu vois, est-ce que c'est que le soir? Est-ce que c'est tout au long de la journée? Est-ce que c'est proche des repas ou c'est juste proche de dodo? Enfin, tu vois, on va se poser plein de questions.
Ok. Est-ce qu'il y a un lien très fort entre un bébé qui a du mal à dormir et le fait qu'il puisse avoir des difficultés dans la digestion, qu'il ait des gaz, qu'il ait un reflux, etc.?
Un lien primaire même, un lien essentiel, un lien direct, indissociable. Moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement du sommeil de l'enfant, dans la prise en charge du sommeil de l'enfant. Et la première des choses qu'on fait dans le bilan, c'est vraiment le bilan alimentaire, l'histoire de l'alimentation, que ce soit allaitement, préparation commerciale, l'histoire de tout son système digestif. Enfin, on trace tout son histoire. Parce que la première chose qu'on veut, c'est faire un lien. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son alimentation qui vient déranger son sommeil? Pour pouvoir dormir, il faut être relaxé, il faut être apaisé, il faut pouvoir rentrer. Je veux dire, le sommeil, il est induit et il faut qu'il n'y ait rien qui vienne bloquer cette induction. Si j'ai un bébé qui fait du reflux, elle est bloquée. Si j'ai un bébé qui a des freins bucco-restrictifs et qui prend beaucoup d'air quand il va téter, elle est bloquée, cette relaxation. Donc, ça fait que je ne peux jamais atteindre la relaxation profonde. Et de fil en aiguille, je vais commencer à manquer de sommeil, je vais commencer à avoir mon besoin, donc le sommeil qui va être perturbé. Donc, c'est tout un équilibre qui est perturbé, un équilibre de besoin. Hein. Le sommeil est un besoin comme manger, ils sont sur la même ligne. Donc, si l'un est perturbé, je veux dire un bébé qui aussi a des difficultés de repos parce qu'il a un torticolis congénital, par exemple, ou quelque chose qui, je ne sais pas moi, un dysplasie de la hanche ou quelque chose qui vient le bloquer, son alimentation va être aussi perturbée parce qu'il va manquer de sommeil, donc il va moins manger. Donc, les deux sont indissociables et liés de façon très, très intime.
Ok, donc on ne peut pas séparer les deux. Et ça ne sert à rien d'espérer que notre bébé il dorme bien tant qu'on n'a pas résolu les problèmes d'alimentation.
C'est exactement ça.
Ok. Est-ce que des bébés qui ont une tétine ont plus de risques d'avoir, par exemple, des gaz, ce genre de choses, ou pas forcément? Il n'y a pas de lien?
Non, pas du tout. Pas du tout. La tétine est beaucoup... Alors, malheureusement, avec l'arrivée de spécialistes du sommeil qui ne sont pas des spécialistes de la santé de l'enfant, on arrive à faire croire aux parents que la tétine, c'est le diable en personne et que tant que bébé aura une tétine, il ne pourra pas dormir, alors que la suction est un besoin. À la base, c'est un réflexe qui est là pour justement répondre à un besoin. Parce que s'il n'y a pas de réflexe de suction, un bébé ne sait pas manger. Puis s'il ne sait pas manger, il ne sait pas répondre à ses besoins. Donc voilà, au départ, les réflexes sont là pour ça, les réflexes archaïques. Donc la suction est un réflexe archaïque qui se transforme en besoin au moins durant les deux premières années de la vie. Parce que avec la suction, c'est un mécanisme qui entraîne la sécrétion de certaines hormones qui induisent le sommeil. Donc, des hormones de relaxation et d'apaisement, elles induisent le sommeil. Il y a même des fois de l'endorphine qui est sécrétée avec la suction, dans le cas de poussée dentaire, par exemple. Donc, ça fait que, en gros, on est en train de dire à des parents, la tétine, donc un des besoins de votre enfant, est responsable de la perturbation d'un autre besoin. Non, on est en train de passer à côté, encore une fois, de plein de choses. Les réveils tétines très fréquents la nuit sont la plupart du temps normaux, tant que l'enfant n'est pas autonome. Il faut vraiment se dire que cet enfant qu'on met au monde, il n'est pas autonome et que je suis là pour répondre à ses besoins. Et la suction fait partie d'un de ses besoins. Donc, en ignorant un de ses besoins, je perturbe en fait totalement son équilibre de base et je perturbe aussi son équilibre affectif, émotionnel, etc. Peut-être que je n'en vois pas les conséquences tout de suite, qu'elles arrivent plus tard, mais il faut vraiment se dire, voilà, la suction est un besoin, la tétine remplace finalement le côté naturel du sein de la maman. Donc, on va avoir encore une fois un choix de substitution qui va nous permettre de trouver un équilibre en tant que jeune parent. Donc, c'est très bien, je réponds aux besoins de mon bébé d'une manière différente, j'ai trouvé mon équilibre, c'est-à-dire que je ne suis pas au détriment de ma santé mentale. Un bébé qui va se réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans la nuit pour la tétine, par exemple, y a une raison. C'est que si ce n'était pas la tétine, ce serait le sein de toute façon. Je veux dire, c'est que s'il sort de l'éveil, du sommeil, pardon, très fréquemment et qu'il réclame la suction, c'est-à-dire qu'il va réclamer la suction, donc ce qu'il a associé comme quelque chose qui l'aide, qui l'apaise et qui l'endort, c'est qu'il y a autre chose qui le freine. Des fois, c'est un reflux. Des fois, il est réveillé par des gaz, il ne sait pas se rendormir, il a besoin de la tétine. Enfin, on doit aller chercher pourquoi ce bébé se réveille toute la nuit pour sa tétine. Il y a une raison.
C'est lié à ces hormones-là que souvent les bébés s'endorment quand on leur donne le sein ou le biberon.
Complètement, c'est exactement ça, ces hormones-là. Et puis, associé à la plénitude qu'entraîne la digestion, cette espèce de ralentissement du corps, je veux dire, pour digérer, on ralentit. Hein, c'est le péristaltisme, on y va doucement. Ça induit indirectement le sommeil. Dans le cas de l'allaitement maternel, on va avoir le corps de la maman est basé sur un cycle circadien, donc avec lune, soleil, obscurité, etc. Et en fait, on transmet ce rythme-là avec la sécrétion de certaines hormones, la mélatonine notamment, qui est responsable de l'induction du sommeil, on va la transmettre aussi dans l'allaitement. Donc, c'est aussi pour ça que les mamans voient souvent, quand elles allaitent, à la fin de leur allaitement, la tête, elle tombe comme ça. C'est parce qu'en fait, elles ont sécrété l'hormone qui induit leur sommeil, puis elles en ont donné aussi un petit peu à leur bébé, forcément. Donc, en fait, c'est parce que le rythme naturel biologique de la maman est transmis à l'enfant par l'allaitement maternel.
Ça marche. C'est hyper intéressant. Bon, j'aurais 50 milliards de questions, mais en vrai, on ne va pas avoir le temps de tout balayer. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que ça peut donner des premières pistes, en tout cas aux gens, pour commencer un petit peu à évaluer ce qui se passe chez eux et après à décider de s'ils ont besoin de consulter ou pas. Mais au moins, ça donne un petit peu des informations de première nécessité, j'ai envie de dire, quand on se retrouve tout seul avec son bébé.
Exactement.
Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet ?
Non, pas spécialement. Après, je pense qu'un des besoins fondamentaux des familles quand ils accueillent un enfant dans leur vie, c'est vraiment de se faire confiance. Leurs ressentis, leurs perceptions ne sont jamais erronées. Et même quand elles sont un peu exacerbées, qu'on a l'impression toujours qu'ils exagèrent, ça peut aussi traduire peut-être une hypervigilance chez eux qui doit nécessiter la prise en charge aussi de leur santé mentale à eux. Enfin, voilà. Tout a besoin, en fait, d'être parfois accompagné. Mais vraiment avoir confiance en soi. Il n'y a jamais de bonne façon ou de mauvaise façon de faire. Ce qui est très, très important, c'est l'intention qu'on va mettre dans l'accompagnement de notre enfant et la réponse qu'on va donner à ses besoins. C'est vraiment, si je dois dire quelque chose, c'est essentiellement ça. Parce que des fois, parler des difficultés, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Faites-vous confiance. Autant quand vous atteignez vos limites, quand vous êtes, quand vous en pouvez plus, faites-vous confiance et dites-vous « Ok, j'en peux plus, je dois passer le relais » ou le contraire. Mais la confiance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ne jamais enlever quand on devient jeune parent.
C'est pas si simple, mais j'entends. Super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Cet épisode touche à sa fin. Pour retrouver les accompagnements proposés par Audrey et son équipe, rendez-vous sur leur site internet www.centreperinatalhmb.com. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes, classées par âge et par catégorie, sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.